pom 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 pom. Françoise Tressard et la belle équipe en piste jusqu'à 13h59. À l'affiche, la publie Papoucité de Jeanne et les histoires des papous Beignet, Mosner, Vallée, jouées avec les mots de la francophonie 2016.
L'ami était fada et même un peu ristrette. Quand on aurait voulu qu'il fût plutôt vigousse, le genre Jean Valjean plié sous la charrette, la soulevant du dos comme une simple gousse. D'aille!
Et puis, une vie de coton-tige par Sophie Divry. Le jeu des suppositions avec Patrice Minet. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard? Le deuxième épisode d'une série chronique sur Vinci et sa maman. Enfin, le roman interactif If à la dérive. Une épopée marseillaise avec Serge Joncourt, Dominique Muller et Lucas Fournier.
Capitaine, capitaine, nous voici à l'endroit décisif. Décisif. Qu'est-ce que vous me chantez là, Marius? Je ne vois qu'un if, le nôtre, le château d'If. Décisif parce que nous sommes en panne d'essence, insiste Marius. Nous avons perdu la partie, l'Espinasse. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Soupire le capitaine de la capitainerie.
Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an. À réécouter 1000 jours sur notre page où vous pouvez déposer vos questions, remarques, rubriques, commentaires. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois la pub, mais Publie Papoucité sur Paris et ses ponts. Avec nous, Jeanne Carillon, qui dit Carillon, dit chanson, pour l'accompagner Les Cœurs Papous, et Gabriel Godard au piano, musique.
Quand on se balade sur les ponts de Paris, la ville nous attache, nous ravit. Quand on se promène sous les ponts de Paris, on marche beaucoup et gare aux Panaris. Quand on se balade sur les ponts le samedi, attention parfois aux traces de Quand on se promène sous les ponts de Paris, on s'y bécote, grand frisson garanti. Flâner et se perdre un peu sur la Seine, c'est un drôle de petit jeu qui plaît tant aux amoureux. C'est presque toujours quand tu veux rester qu'il faut s'en aller. Un groupe de touristes débarque, les photos matraquent ton intimité.
Pom, 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 pom.
Les ponts, il en faut toujours sur la Seine, sur la Seine, pour fuir les curieux du jour qui reluque nos amours. Quand on se balade sur les ponts de Paris, le gris de gris Paris nous envahit. Quand on se promène sous les ponts de Paris, on chante dessous et ça résonne pardi. On chante dessous et ça résonne pardi. On chante dessous, vive les ponts de
Paris.
Voilà, tous les ans au printemps sont fêtés avec les premières jonquilles, la poésie et la francophonie. La francophonie qui met à l'honneur 10 mots. Cette année, chafouin, champagnier, dépanneur, poudrerie, drachée, fada, lumerotte, ristrette, tap-tap et vigousse. Eh bien, nous allons jouer avec ces mots, jouer à raconter des histoires. Et vous pouvez jouer vous aussi en postant vos récits, rubrique commentaires, des papous du jour. Et les mots y seront inscrits dans cette rubrique. Des mots du français de France comme fada ou chafouin. Alors chafouin, c'est un adjectif bien connu aux papous puisque c'est un des mots préférés de Patrice Delbourg. Et il en est souvent question dans nos jeux. Les autres mots, je vous les présente. Le champagnier, qui nous vient du Congo et qui désigne une personne d'influence aux nombreuses relations. On en connaît des champagniers. Venu du français du Québec, le dépanneur. Ça désigne le petit commerce toujours ouvert et qui vend tout. Et la poudrerie, c'est la neige poussée par le vent quand elle tombe ou quand elle est soulevée du sol par le même vent. Vient le verbe dracher, ça c'est du français de Belgique. Quand il tombe une pluie battante, on dit qu'il drache. L'allumerotte est belge également. C'est une source de lumière un peu faiblarde. Ristrette, du franco-suisse, c'est un petit café très fort, à la vapeur du percolateur. Sans se figurer, c'est quelqu'un qui est un petit peu bas du plafond. Ensuite vient vigous, tout aussi suisse, un mot pour dire vigoureux, un peu rustre peut-être. Et le dernier des 10 mots, il nous vient de Haïti, c'est le tap-tap, une camionnette pour le transport en commun, dont la carrosserie est égayée de peintures naïves. Ces mots seront nos mots contraintes pour jouer à 10 mots pour des histoires à imaginer. Patrick Beignet, Jacques Vallée, Ricardo Mosner et Jacques Jouet ont découvert ces mots il y a une petite demi-heure. Encore quelques secondes et leurs histoires seront écrites. On va découvrir vos histoires, Patrick Beignet, Jacques Vallée, Jacques Jouet, Ricardo Mosner. On peut réécouter les mots, les 10 mots de la francophonie 2016. Donc je rappelle qu'il y a du français suisse, du français belge, du français du Congo, du français de France et du français...
De Haïti.
De Haïti et du Québec. Alors on les écoute ces jolis mots.
Chafouin.
Oui.
Champagnier. Dépanneur. Draché. Fada. Lumerotte. Poudrerie. Ristrette. Tap-tap. Vigousse.
Ce sont des jolis mots, il y a des substantifs, un verbe, des adjectifs. On commence avec Patrick Beignet, tiens, ce serait une bonne idée ça.
Très bonne.
Quel est le mot qui vous a inspiré l'histoire, le fond de l'histoire, l'action peut-être?
Moi, c'est certainement le mot draché, le verbe.
La pluie donc.
Ouais.
D'accord. Elle est dans le titre cette pluie?
Pas du tout.
Pas du tout, non, c'est quoi le titre?
Il ne faut jamais exhiber l'essentiel dans un titre.
Oh, comme il parle bien.
Le titre, c'est Ludo, Marco et les autres.
Oui, d'accord.
Il drachait encore et toujours. Sylviane pleurait, persuadée que jamais plus elle ne reverrait Gérald et que le tap-tap était tombé dans une de ces périlleuses crevasses où tant de jeunes gens avaient déjà trouvé une mort atroce. C'était pourtant simple. Tant qu'on n'améliorerait pas la lumerotte à l'entrée des lotissements, derrière le dépanneur, rien ne pourrait changer, surtout les jours de poudrerie. Le père de Sylviane en avait maintes fois fait la remarque au champagnier. Mais celui-ci, un fonctionnaire blond à l'air vigousse, refusait obstinément de prendre la moindre mesure en ce sens. « On serait revenu sous la 4e République, disait le père de Sylviane, avec un petit air dépité qui nous faisait tous rire, surtout quand nous avions trop bu. » De son côté, Ludo, le frère cadet de Pierre-Antoine, qui n'avait rien d'une ristrette, c'est le moins qu'on puisse dire, s'était mis à détester Marco, le fils du champagnier. Avec son air chafouin, prétendait-il, c'était un fada, comme on n'en voyait plus heureusement depuis la guerre 14. C'est alors qu'on entendit le bruit du moteur.
Et là, tout va démarrer, tout va commencer. Une folle histoire. C'est pas mal d'entendre ces mots tous mélangés, non? Ça donne une espèce d'exotisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Jouet?
On n'y comprend rien, c'est ça qui est beau.
On n'y comprend rien. Oui. Bah si, parce que j'ai donné le sens avant, voyons.
Oui.
Ouais, on pourrait les adopter, ces mots.
Ah ben, ils sont adoptés.
Lequel vous adopteriez en premier, Jacques Jouet, de tous ces mots?
Vigous.
Qui a un côté assez péjoratif, non?
Oui, mais on peut le...
On peut le détourner.
Oui, il faut le détourner, oui.
Bon, on va voir ce que vous en avez fait, mais d'abord, on s'intéresse à Jacques Vallée. Et j'aimerais bien, Jacques Vallée, que vous ayez fait un poème, je croise tous mes doigts, oui?
Ben oui, vous m'avez commandé.
Oh, mais je l'ai fait très discrètement, mais pourquoi vous dévoilez tout comme ça?
Moi, c'est le mot qui m'a frappé, puisque c'est fada.
Oui, qu'on connaît bien, qui est bien français.
Et puis en plus, je me le suis approprié et je l'ai mis en titre parce qu'on met toujours en titre le mot important.
Et de dire qu'on n'est pas d'accord avec Patrick Beignet, d'accord.
Le fada. Laura était selon mon cœur, mais elle était bien trop coquette. Je la rencontrais chez une dépanneur. Elle me prenait pour un ristret. J'étais, c'est vrai, un peu fada. Je la guettais dans le village. La surprendre était mon dada. Ça la mettait dans de ses rages. Et j'aimais la voir en colère. Je la suivais par tous les temps. Je la poussais sous les gouttières quand il me drachait énormément. Je la coinçais, j'étais chafouin lors des moissons dans une grange. Et la renversée dans le foin, je ne vois pas qui ça dérange. Laura, Laura, ô mon tourment, j'étais vigousse et une rage me dévorait tout le temps. J'étais fada, j'étais sauvage. Je redoutais qu'elle se dérobe. Je la roulais dans la poudreuse. La poudrerie levait sa robe. Laura était mon amoureuse. Je rêvais d'être un champagnier pour la sortir devant tout le monde. Et on tape-tape l'accompagner et qu'on nous voit à la ronde. Lors, Laura est beaucoup trop sotte et mon espoir est si ténu comme une faible lumerotte. Je crois même l'espoir perdu. Laura n'est plus mon amoureuse, car elle est bien trop coquette. Je vais plus chez une dépanneur. Et tous me prennent pour un ristret.
Oh, c'est magnifique. Hein.
Bravo. Très, ça rappelle très, très beau. Marquise.
Exactement, ah, oui. Oui, il y a ce désespoir léger, quoi, de l'homme qui a vécu face à la jeune femme. Oui.
Non, il c'est est très inquiétant au début. Il se présente un petit peu comme Jack l'éventreur.
Oui.
Avec le malheur, finalement, il devient plus humain.
Mais c'est ce que fait le malheur en général. À certaines personnes. Bravo, bravo. Ça a été fait en pas si longtemps.
Non.
Mm-hmm. Ricardo Mosner, c'est à vous. Et avec vous, on est dans la prose.
Oui.
Parce que c'est votre genre, quoi.
Ah oui.
Ah, non, j'ai une petite difficulté avec les alexandrins, les octosyllabes. Mais d'abord, non, vous ne savez pas compter sur vos doigts.
Je l'ai fait d'une façon particulière. Mais...
C'est-à-dire, c'est une chanson
Non, j'ai dit des alexandrins. Là, il n'y a pas d'alexandrins. Mais là, moi, contrairement à M. Besnier,
oui.
Je préfère qu'il soit un peu annoncé la couleur, parce que comme je pense toujours qu'on ne comprend pas, donc je mets déjà les...
Vous avez raison, on ne comprend pas toujours.
Oui, donc je mets déjà dans les titres, je veux dire... Le
sujet.
Oui.
Alors, quel est le titre?
Mais quand même, il ne faut pas tout dévoiler. Donc, c'est Tombe la neige.
Il y a deux écoles.
Tombe la neige, comme dans la chanson
Tombe
de...
Tombe la neige.
D'Adamo. Oui,
exactement.
Tu ne viendras pas ce soir.
Oui. Mais ce n'est pas une histoire
mon
comme ça.
Mon cœur au désespoir.
Il y a une connaissance de la chanson chez Jacques Vallée que je n'aurais jamais soupçonnée au fil des Dimanches Papons. On entend comme ça des références.
Oui, bah oui.
Et on se dit, mais quoi, il a déjà écouté de la variété? Et oui, on pourrait penser qu'il est plutôt jazz ou musique classique. Et non.
Oui, non, mais Adamo, c'est autre chose.
Adamo, c'est une grande valeur. Belge.
Oui. Tombe la neige. Sous la lumerotte d'un réverbère, Anne Métis. Chafouin attendait un champagnier avec les ordres. Comme il commença à dracher, Pedro Nieves se réfugia dans un dépanneur. Pendant ce temps-là, une Cadillac avec son rendez-vous arriva. Inadmissible, Pedro Nieves n'était pas là. Mais il est fada, dit le champagnier, voyant que Pedro Nieves brillait par son absence. Est parti furieux. Pedro était en train de convaincre les patrons du dépanneur de lui préparer un ristret. Les patrons insistaient, on vend du café en boîte, mais on ne le prépare pas. La discussion dura des heures. Et évidemment, Pedro Nieves arriva à ses fins. En sortant, oh surprise, il neigeait. La poudrerie l'émerveilla. Pedro Nieves était rustre, mais poète. Quand même, il ne voulait pas s'attraper la crève et rentra dans la boutique demander un autre ristret. Et la discussion avec les patrons recommença. Quand un groupe de voyous fit irruption pour lui faire la peau. « On ne pose pas des lapins à un champagnier, » dit le plus bigousse. Pedro Nieves commença à chanter « la cucaracha » et avec son don pour la poésie distraya ses agresseurs. Puis, il les amena contempler les balais des flocons. Ainsi, il profita
pour s'accrocher à un tap-tap qui avait ralenti la marche. Et Pedro Nieves disparut dans les noirs. La cucaracha, la cucaracha.
C'est très très joli, hein. Et puis finalement, tout ce français qui vient d'un peu partout avec l'accent argentin, oui. C'est savoureux.
Ça... Oui. Il y a un nom de personnage argentin en plus.
On attend le roman dont Pedro Nieves sera le héros.
Très joli personnage. Ah.
Oui. Je vous explique, Nieves veut dire neige.
Oui, nous savions.
Parlez pour vous. c'est tout à fait charmant. Alors vous passez en quatrième position, Jacques Jouy, c'est pas facile, hein. Et je vous ai demandé, comme à Jacques Vallée, d'écrire un poème.
Ça, c'est pas un cadeau, hein, de demander, après Jacques Vallée, d'écrire un poème.
Jacques Vallée est notre poète, mais enfin, vous en êtes un aussi.
Bon, mais moi, j'ai pas choisi des octosyllabes.
Oui.
Mais plutôt un vers plus ample pour faire une épopée.
Oui, alors du 15 pieds ?
Non, du 12, mais...
Du 12, du 12 régulier. Et quel est le mot qui vous accroche ?
Je m'attendais à la question.
Ah, oui.
Tap-tap.
Tap-tap. Et celui qui vous dérange un petit peu, que vous avez eu du mal à glisser
tap,
dans
tap.
L'histoire. Tap-tap aussi.
Le même.
C'est le mot important.
Non, mais ça m'a rappelé des souvenirs de voyage.
D'accord.
Dans une sorte de tap-tap.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la théorie des uns et des autres ? Patrick Beignet, il ne faut pas dévoiler dans le titre. Ricardo Mostert, on dévoile un peu. Jacques Vallée, on dévoile aussi un peu. Vous avez fait quel choix ?
Ça dépend des jours. Là, j'ai plutôt choisi de dévoiler, puisque le titre, c'est « Panne au tropique ».
Ah oui.
Et quelque chose curieux, ça démarre comme une prose, d'ailleurs. Parce que c'est le même début que dans le texte de Patrick, tout à l'heure.
Ah bon ?
Il drachait. Un peu comme dans Victor Hugo, ça peut démarrer
léger.
Le chauffeur d'un antique tap-tap, plus vieux qu'un baobab voire antédiluvien, jura tout ce qu'il put, injuriant jusqu'au pape. En passant par les dieux, il répétait « Viens, viens !» appuyant des deux pouces sur les lumerottes de son pauvre portable à peu près déglingué. La panne était sévère, on n'avait pas de bottes, la piste était un fleuve et dépourvue de guets. Il appelait inquiet un ami dépanneur, mais qui ne connaissait rien à l'automobile, ne vendant que du pain, des biscuits et du beurre, de l'huile de noisette et des dattes kabyles. L'ami était fada et même un peu ristrette. Quand on aurait voulu qu'il fût plutôt vigousse, le genre Jean Valjean plié sous la charrette, la soulevant du dos comme une simple gousse. D'aille !
Le rejet est magnifique. Hein.
Oui, d'aille, un enjambement.
Oui.
D'aille, cependant le froid, ayant chassé la pluie, les passagers voyaient avec une peur bleue arriver par le nord un vent de poudrerie qui fait dire à chacun « On est foutu, morbleu !» À présent, il neigeait, quand au loin, sur la piste, s'approcha le 4x4 d'un expat champagnier, qu'emmenait un moteur nourri au gaz de schiste, un bonhomme chafouin au volant, bien peigné. Sauvé, criaient en chœur les naufragés des neiges, avant que, sans stopper, passe le 4x4 beige.
C'est bien.
Ah oui, c'est bien. Oui,
c'est ligonien. Surtout le souffle de la tempête de
la
neige.
Tempête, oui, c'est ça.
Oui, on le sent.
Si l'on ne va pas purer les poissons qui sont dans l'eau profonde, jamais quand ils sont polissons, le maman ne les compte. Quand ils se lient à faire pipi au lit, ou bien solution cette, ou à cacher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartine. Ils mentent quand ils sont en vie, et quand ça la maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les soucis. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi tu l'aimes bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'il veut le prendre un petit verre, elle les a peu voûtés de suite. Nous remontrons comme on s'en donne. On les décroche du leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. La voisine est française, elle est souci. Les petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi, tu tu l'aimais bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'il veut être maquereau, c'est pas elle qui les empêche de se faire des réponses sur le dos. Dans un bain de peinture fraîche, la maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les soucis. C'est petit, l'aimait bien, elle est bien gentille. Et moi, tu l'aimais bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle y fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les soucis. C'est petit, l'aimait bien, elle est bien gentille. Et moi tu l'aimais bien avec du citron. Si l'on ne va pas purer les poissons, ils sont polissons, le maman ne les gronde. Quand ils oublient, elle fait pipi au lit, ou bien sur le saucette, ou à cacher comme des papolis. Elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Bobby Lapointe façon Noriko Kato.
Les papous, c'est aussi dans ma tête et sur France Culture.
Absolument, Jeanne. Et à noter sur vos tablettes deux rendez-vous publics avec nous. Alors, du plus loin au plus proche, le samedi 2 avril à 19h, nous serons à Lyon, invités par les étudiants de l'ENS, l'École Normale Supérieure, avec le soutien des anciens élèves de l'école. Et vous êtes tous conviés à cette soirée pour 2h30 de jeux papou. Étudiant ou non, lyonnais ou de passage, direction l'amphi, le grand amphi Mérieux de l'ENS à Lyon. On en reparlera. Et puis, dimanche prochain, le 20 mars, nous vous attendons pour un numéro des Papous dans la tête en direct, de 12h50 à 13h59, dans la chaude ambiance du Salon du Livre de la Porte de Versailles à Paris, au coude à coude avec moi, Serge Joncourt, Lucas Fournier, Patrice Delbourg, Eva Almassi, Gérard Mordilla, Patrick Beignet, Hervé Letellier, Jeanne Carillon. Et pour nous accompagner en musique, Pablo Gignoli et son bande de néons. Renseignements à retrouver à la page des Papous du jour et sur notre page Facebook. Une nouvelle venue aux Papous dans la tête, Sophie Divry. Vous avez fait brièvement sa connaissance, c'était dimanche dernier. Elle est de retour, Sophie. Cette toute légère pointe d'accent vient de Montpellier, où elle est née. Et elle écrit, Sophie, des romans. On l'a découverte avec La Condition pavillonnaire. Et son petit dernier est paru à la rentrée aux éditions Noir et Blanc, Quand le diable sortit de la salle de bain. Un livre très papou qui m'a donné envie de lui proposer de rejoindre notre petite bande. Alors Sophie Divry, c'est à vous de jouer. Vous vous glissez dans la peau d'une certaine chose pour dire son état de choses en monologue. Vous seriez quoi, Sophie ?
Je suis dans la peau d'un coton-tige.
Oh, c'est pas très glamour, non, ça, si. Quand même.
Faut pas les prendre pour des imbéciles.
Hein. Ah non, j'ai pas dit, non mais...
J'ai appelé ça philosophie du coton-tige.
Ouais.
Vous en aurez juste un extrait.
Ah oui, il y a 3 tomes.
Oui, tout à fait. Philosophie du coton-tige. Nous vivons en paquet. Nous discutons beaucoup. Nous discutons des deux manières qu'il y a de voir notre vie en paquet. Premièrement, la conception solidariste. Nous sommes grégaires afin de survivre. Tant que nous restons serrés les uns contre les autres, notre coton moussu et ferme faisant des bisous au bout de coton moussu d'à côté, nous restons en vie. Selon cette première conception, être arraché du groupe signifie la mort.
Ouais.
Celui qui est sorti pour faire son travail de nettoyage d'oreilles va terminer souillé et scellé dans une poubelle de salle de bain. Triste sort. Deuxièmement, la conception individualiste. Le groupe nous étouffe. Entassés, nous nous marchons sur les pieds dans une oppressante promiscuité. Selon cette philosophie, notre vie ne commence qu'en sortant du paquet. Notre espoir est de partir et de vivre notre vie, de s'épanouir, d'exister enfin pour soi. Quelle joie de devenir enfin quelqu'un, même 10 secondes. Les rêves du premier groupe sont des rêves solidaristes. Un de nous a calculé que pour aller de la Terre à la Lune, les pieds sur les épaules les uns des autres, si nous étions 5 491 428 571 cotons-tiges de 7 cm, nous pourrions le faire, tous ensemble.
C'est vrai?
Les rêves du deuxième groupe sont des rêves individualistes. Être envoyé à une tâche aussi noble et originale que la peinture pour enfants ou toute autre invention sortie du cerveau d'une institutrice en manque de travaux manuels de fin d'année. Mais un autre débat agite notre paquet. Posez-vous la question. Nos deux bouts de coton se ressemblent à l'identique. Mmh. Comment savoir si nous sommes la tête en haut ou la tête en bas?
Ah, oui. Mmh. Oui, c'est une question métaphysique, oui.
Petit homme, il y a ceux qui pensent avoir la tête en haut. C'est mieux pour voir ce qui se passe dans la salle de bain, pour discuter esthétique avec les crèmes pour visage et autres brosses à dents solitaires. Mais c'est mieux aussi pour discuter avec les copines avec qui nous dansons collés serrés. Petit 2, il y a ceux qui décrètent avoir la tête en bas. Cela a l'avantage, quand leur tour est venu de travailler et de mourir, de ne pas être arrachés par les cheveux, mais tirés plus délicatement par les pieds.
Eh oui.
Mais les deux alternatives ne se recoupent pas forcément dans un paquet de coton-tiges. Nous avons 4 groupes. 1. Des solidaristes, la tête en haut. 2. Des solidaristes, la tête en bas. 3. Des individualistes, la tête en haut. 4. Des individualistes, la tête en bas. Autant vous dire que l'ambiance dans un paquet de coton-tige, quand nous débattons ensemble, mais séparément, et parfois tête bêche, n'est pas des plus calmes.
Non.
Et nous avons encore un autre problème.
C'est quoi?
Comme nous préférons tous entrer dans la première oreille sale, les pieds devant, parce que c'est fini, hein, nous parions sur le comportement de l'être humain qui va nous manipuler. Si l'être humain normal de type A prend un individu du groupe 1 ou 3 par la main droite, donc par la tête, puis le fait, comme c'est très courant, passer par la main gauche en opérant en demi-tour et nous fait ensuite revenir dans la main droite, il nous enfoncera dans son oreille les pieds devant. L'honneur est sauf.
Oui, tout va bien. Oui, c'est plus clean aussi. Hein. Ouais.
Mais les individus des groupes 2 et 4, eux, la tête en bas, parient sur un être humain du type B. Un gaucher qui les prendra par les pieds, passera par la main droite pour faire un demi-tour et enfoncera à gauche par les pieds, c'est QFD. Un être humain de type C, un droitier irrationaliste, qui ne fera pas faire le demi-tour, mais commencera par enfoncer directement le coton-tige à l'oreille gauche. Vous suivez?
Ah oui, je suis un peu perdue dans les pieds et la tête.
À savoir qu'un demi-tour pour un coton-tige est un tour complet, hein, vous l'aurez noté, j'espère.
Oui, c'est bien de le préciser quand même, parce que regardez l'air perturbé de Serge, comprends pas. Hein,
non, je résume. Conséquemment, dans une boîte de coton-tige de 160 individus, nous avons petit 1, des solidaristes la tête en haut rencontrant un être humain de type A et finissant les pieds devant. Petit 2, des solidaristes la tête en haut rencontrant un être humain de type B ou C et finissant la tête devant. Petit 3, des solidaristes la tête en bas rencontrant un être humain de type A et finissant la tête devant. Petit 4, des solidaristes la tête... Ah, mais au secours! On m'arrache par les cheveux!
Ah!
Ah bah tant mieux, hein.
Et il y en a en couleur, j'en ai vu en couleur une fois.
Ah oui, c'est un autre groupe, oui.
Ah bah voilà.
Est-ce qu'il y a des cotons-tiges qui poussent?
Qui poussent.
Il y a du coton qui est végétal et la tige aussi, donc ça doit pousser.
Ah oui, des champs de coton-tiges, oui, tout à fait. Un des pépinières de coton-tiges.
Si tu les arroses bien, oui.
Come with me, let's get together in my comic strip.
Let's talk in bubbles and go. And
forget your troubles and go. So my dear, come here.
I'm going to me.
I am near.
Just remember this.
Have no fear.
Bring. Give me a kiss. Boom. Shabang. Woo. Pow. Whoosh. Zing. Ah. Shabang. Whiz. Kiss. Oosh. Pow.
La récré dans la récré, c'est le jeu des suppositions. Et c'est un jeu pour Patrice Minet maintenant, à lui, d'imaginer un nom en rien, Brinzing, pour une histoire adressée à un des papous présents. Suppose que tu t'appelles. Le récit se poursuivra jusqu'à une chute en forme de calembour sur le nom chute la plus culturelle possible. Patrice Minet, à qui dédiez-vous cette histoire?
Eh bien, à vous, Françoise.
Chouette.
Oui. Je ne sais pas encore chouette, si c'est chouette.
Je ne sais pas. Peut-être pas. Non.
Françoise.
Oui.
Suppose que tu t'appelles Fall.
Fall.
Et que tu aimes le sport.
Oui, j'aime le sport.
Voilà. Comme tu es limité de la casquette.
Ah bon?
Bah oui.
Merci de m'avoir dédié cette histoire. C'est trop sympathique.
Il te faut un sport qui ne te fatigue pas trop les méninges.
Non.
Alors, qu'est-ce qui reste comme activité physique, Fall? Essaie donc le foot. Allez, vas-y avec ton ballon. Mais non, tu t'en mêles les pédales. Tu penses trop à ce que tu fais. Et penser, tu n'es pas équipé pour ça. Tu as une trop petite tête. Et quand la tête veut s'occuper de tes jambes et du ballon, en plus, elle bug. C'est trop compliqué. Tant pis. Tentons le tennis.
Oui.
Allez, engage. Je te renvoie la balle. Mais non, tu dois pas lancer la raquette en l'air pour attendre la balle. Bon, on laisse tomber le tennis, c'est trop intellectuel. Il y a sûrement des sports où la tête n'intervient pas.
La pétanque, non.
Voilà, c'est le corps qui sait, qui agit avec ses réflexes sans réflexion. La plongée, par exemple. Mm-hmm. Oui. Ah non, c'est pas pour toi la plongée. Quand tu arrives au fond, tu commences à creuser. Oublions la plongée. Faut trouver un sport qui ménage ton petit ciboulot.
Ouais.
Non. Fall. Manger n'est pas un sport, c'est vrai, quand tu manges, la bouche s'occupe de tout, tu as la tête vide et la bouche pleine, mais tu ne seras jamais championne olympique comme ça, Fall. Ah, voilà, tu l'as dit, il reste la pétanque.
Voilà, je oui. Le savais.
Oui, je sais, la pétanque, oui. Tu ne sais pas jouer. Et c'est tant mieux. Quand tu joues à la pétanque, tu vises vaguement le cochonnet et ton corps fait le reste. L'action s'effectue sans l'intervention des neurones et ainsi ton crâne de piaf est à l'abri de la surchauffe. Allez, prends une boule dans ta main. Ne pense surtout pas à ce que tu fais et balance-moi ça où tu peux. Fais-moi confiance, oublie tout. Bravo, en plein dedans et avec l'esprit vide. C'est le bras qui sait, Fall.
Oh,
c'est le bras qui sait, Fall.
Oui.
Et voilà, Françoise.
Exact, bravo. 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 Elle est comme ça. Elle est comme ça.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour à suivre. Jusqu'à 13h59, qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ? Et le roman interactif de Marseille, La mer, le port, une histoire de dérive, par Serge Joncourt, Lucas Fournier et Dominique Muller. Donc, qu'est-ce que tu as encore inventé ? Rapport maman-enfant sous-entendu, les enfants font souvent des bêtises et leur maman des remontrances. Dans la catégorie des mamans méfiantes, Jacques Jouet nous offre celle de Léonard de Vinci. Magnifique Léonard qui a tant inventé que Jacques lui prête d'autres idées géniales qu'il aurait eues dans son enfance. Mais c'est bien connu, quand on est petit, il arrive que les parents s'agacent de nos idées. Voilà. Après l'invention des bretelles, c'était dimanche dernier, une deuxième découverte. Et la maman de Vinci lui pose à nouveau la même question. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ? Jacques Jouet.
La tapette à souris.
Oui.
Utile.
Mais absolument, pour qui a des souris ?
Le petit Léonard revenait à la maison, le cœur en fête et les yeux remplis de joie. « Oh, toi !» lui dit sa maman, qui hésitait entre l'attendrissement et une vague inquiétude. « Toi, tu nous as encore inventé quelque chose. D'où viens-tu comme ça, le cœur en joie et les yeux remplis de fête ?»« Je reviens de la sortie scolaire, chère maman, tu sais bien. »« Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait sortie scolaire aujourd'hui. Où êtes-vous donc allé ? À la tour de Pise ou au Colisée ?»« Ah, ni l'une ni l'autre, maman. » C'était une sortie peinture. Nous sommes allés à Lascaux. Au fait, est-ce que tu te plains toujours que ta réserve de mozzarella est attaquée par les souris ? Si c'était que la mozzarella, mais aussi le provolone, la ricotta, le pecorino, le robiola, le salandro, le gorgonzola, le parmigiano, je ne vais pas te faire la liste des 300 fromages italiens, tous aussi excellents les uns que les autres et que les souris ne respectent pas. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Lascaux ? Je crois que j'ai trouvé une solution, maman, pour les souris. Ce serait trop beau, mais je n'y crois pas. Figure-toi qu'à Lascaux, il y a de gigantesques peintures sur les murs des grottes dans lesquelles nous sommes allés avec la maîtresse. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'elles représentent, ces peintures ? J'espère que ce ne sont pas de ces horribles abstractions comme on les multiplie à présent pour faire moderne. Pas du tout, maman. Regarde, avec mon crayon, j'ai recopié ce qu'on voit. Et le petit Léonard de montrer à sa maman un étrange dessin, ou plutôt une suite de dessins en bande qui faisait une séquence. « Tu n'as pas inventé la bande dessinée, au moins !» dit Madame de Vinci en faisant les gros yeux. « Je t'ai déjà dit que c'était du temps perdu. » On voyait sur le premier dessin un gigantesque sanglier qui courait vers un jardin et dévastait complètement une plantation de rutabaga. On voyait sur le deuxième dessin le même gigantesque sanglier qui s'approchait d'une étrange machine composée d'une planche de bois posée sur le sol,
de deux montants de chêne gros comme des poutres du dôme de Florence, reliés par des mortaises et des tenons à une troisième poutre encore plus considérable de section que les deux autres, et grosse à peu près comme le grand mât du vaisseau amiral de Christophe Colomb quand il partit du port de Gênes. Un énorme ressort à boudin tendait l'ensemble dans la partie cachée de la machine, tandis que de magnifiques topinambours trônaient en pyramide sur la planchette. On voyait sur le troisième dessin le sanglier, toujours aussi gigantesque, qui sautait avec légèreté sur la planchette et plongeait le groin dans cette sorte de vieux légume qui était son régal favori, et pour l'heure malheureusement en voie de raréfaction, car il y avait la guerre chez les hommes de Cro-Magnon dont le pays était occupé par les Néandertals et que les premiers n'avaient à peu près que ça à manger, d'où la pénurie pour les sangliers. On voyait sur un quatrième dessin la terrible poutre en bois dur, grosse à peu près comme on l'a déjà dit, que le ressort à boudin soudain détendu abattait sur l'échine du sanglier, encore un peu plus gigantesque que tout à l'heure, en lui brisant d'un coup la colonne vertébrale, pourtant réputée aussi solide que celle du temple de Paestum ou d'Agrigente. La pauvre bête était représentée sur le cinquième et dernier dessin, dans une bizarre position qu'on pourrait dire cambrée, la tête et la queue s'étant rejointes par leur arrière, avec cette poutre au milieu du corps, terriblement assassine. Le dessin du petit Léonard était tellement vivant et précis qu'on avait le sentiment d'entendre, dans l'ordre séquentiel inverse, le cri poignant du sanglier, le craquement des vertèbres et le grand paf de la poutre qui tombait sur la bête à l'endroit qu'il fallait. Madame de Vinci était devant le dessin du petit Léonard comme au cinéma. Elle agrandissait ses pupilles, écarquillait ses yeux, ses sourcils se dressaient au-dessus de ses orbites. Et finalement, elle rétractait les rides qu'elle avait sur le front comme si elle faisait un effort intellectuel considérable pour suivre l'idée de son enfant prodige. « Mais, dit-elle, une machine de cette dimension n'est-elle pas un tout petit peu démesurée pour attraper mes souris ?»« Exactement, maman, dit le petit Léonard. Tu es au bord d'Eureké, bravo. » »« Qu'est-ce que ça veut dire, Eureké ? Tu inventes aussi des mots à présent. »« Eureké, c'est quand on est en situation de crier « Eureka, maman !»« Eureka !» Eureka. Les pré-adamites appelaient ce gigantesque piège à sanglier une écrabouillette. Pour les souris, c'est simple, il suffit de réduire le format et d'affaiblir le nom. Moi, j'appellerais ça tout simplement une tapette. Parce que tu crois qu'on peut attraper des souris avec des topinambours et des rutabagas ? Ah ben, bon courage ! Non, je crois qu'il faut les remplacer par du fromage, maman. Ah ça, jamais ! Je t'ai demandé une solution pour épargner mes fromages, c'est pas pour commencer par en dépenser ! On n'aura pas le choix, maman. Je viens d'inventer un concept nouveau, ça s'appelle un investissement.
Moi je veux jouer de l'hélicon, pom 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 pom.
Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman.
Ah non, je veux jouer de l'hélicon, pom 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 pom.
N'en parlons plus, mauvaise tête. Tiens, va donc voir la femme trombone.
Maman, je ne veux pas que la trompette. Moi, je veux jouer de l'hélico. Pom, 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 pom.
Mon fils, tu es bien polisson de te moquer de la femme tronc. La femme tronc qui est si bonne.
Eh hey, maman, que m'importe les trombones. Moi, je veux jouer de l'hélico. Pom, 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 pom.
Laissons donc cette femme tronc qui a pourtant un beau tuba et va trouver. Jouer avec au bois.
Pas du au bois de l'hélicon, pom 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 pom.
Eh bien, y'a ton ami Elie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui.
Non, maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon, pom 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 pom.
Tué à coup de marteau et l'on a fait graver dessus cette tombe. Il voulait jouer de l'hélicon, pam 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 pam.
Isia et Jacques Higelin, Dernière séquence de ce numéro des papous dans la tête sur France Culture, le roman interactif en 3 chapitres. Pour le premier chapitre, Sergencourt. Alors, je lui avais imposé le décor de l'intrigue, Marseille, et la Grande Bleue, à lui d'imaginer des personnages, de les mettre en situation et de se lancer dans une histoire jusqu'à buter sur 3 hypothèses de suite possibles offertes au suivant, c'est-à-dire Lucas Fournier, pour l'écriture du chapitre 2. À ce moment-là, la mission de Lucas, poursuivre le roman sans le détruire, en allant dans le sens proposé par Serge, et puis transmettre le témoin à Dominique Muller pour le chapitre 3, avec pour elle aussi le choix entre 3 pistes romanesques à poursuivre. 3 écrivains qui s'entendent bien, ils feront œuvre commune, et pourtant à chacun son style, sa malice, sa personnalité. Un court roman qui reviendra à Sergencourt pour la chanson en prime tout à l'heure. C'est parti avec vous Serge, le roman interactif, chapitre 1.
À midi tapante du matin, le téléphone du chef de la capitainerie du port de Marseille sonna. Ouais. Capitaine, capitaine, réveillez-vous, il y a le château d'If qui part à la dérive. Non, qu'est-ce que vous me chantez là? Et qui êtes-vous d'abord? C'est Marius, de la Garlinette.
Il y a des personnages marseillais, là, ça tombe bien. Hein
oui, ah bah oui, mais dans la couleur. Marius est depuis plus de 20 ans le commandant de la Garlinette, la vedette d'excursion de la If Express qui, 6 fois par jour, fait la navette entre le château d'If et le quai des Belges. Ouais. 6 fois par jour, la Garlinette trimballe des touristes casquettés pour visiter le château d'If et accoste au débarcadère. Il connaît donc parfaitement bien les parages. Vous vous en doutez. Mais enfin, Marius, qu'est-ce que vous me chantez là, le château d'If qui part à la dérive, mais au sens propre ou au sens figuré? Au sens propre, capitaine, au sens propre. Tenez, je l'ai là devant moi et au moment où je vous parle, eh bien, il file droit au sud-sud-est. Sud-sud-est? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Oui, sud-sud-est-est, si vous préférez. Ça alors, mais à quelle vitesse? À 2 nœuds, mon capitaine, à 2 nœuds. À 2 nœuds? Et c'est pour ça que vous me réveillez? Oui, je sais, ça va pas vite, mon capitaine, mais à ce rythme-là, dans 6 mois, le château d'If, il est en Corse. Et moi, si je dois continuer à faire mes 6 navettes par jour, j'aurai jamais assez de gasoil pour faire mes 6 allers-retours, d'autant qu'il me faudra 3 jours de mer.
Ah oui?
3 jours de mer?
Aller-retour, oui.
Non, par trajet, 3 jours de mer par trajet.
Ah, c'est compliqué.
Mais qu'est-ce que vous me chantez là, Marius? Mais oui, autant demander au ferry Boat d'aller jusqu'à Tanger. C'est un peu maritime, il faut des connaissances, hein, je m'excuse.
Ah ben oui, 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 la vitesse déjà, 2 nœuds, ça fait combien?
Ah, 20, ben oui,
Jacques Bertrand, il doit savoir
ça. Oui, il y en a qui maîtrisent, oui.
Non, il dit non, c'est pas un maritime,
donc, Jacques. 2 fois plus rapide qu'un nœud.
Ah oui, bravo.
Ça fait 4 km/h. Tanger, Tanger, mais Marius, vous voulez dire au sens propre ou au sens figuré? Ah, je ne sais plus, capitaine, je ne sais plus, mais faites quelque chose. Bon, écoutez, Marius, ne bougez pas, je vous rejoins sur le port et vous allez me montrer ça. Capitaine de capitainerie n'est pas un poste particulièrement exposé, ni qui suppose d'avoir une connaissance particulière de la mer, ni de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Le capitaine Espinas, pour sa part, avant d'être nommé à ce poste de capitainerie par le préfet de la préfecture maritime, était contrôleur fiscal du fisc très loin d'ici, à Aix-en-Provence. Un fonctionnaire un peu trop laxiste, au goût de certains, assez coulant. C'est pourquoi, contre toute attente, on l'aura affecté à cette sinécure particulière qui consiste à être capitaine, non pas d'un bateau, mais d'un port.
Bah, c'est pas mal, hein.
C'est pas mal.
Bon job, quand
sinécure.
Même.
Ouais. Et bien qu'on soit en plein mois de novembre, exceptionnellement, la Garlinette apparia pour traverser le vieux port avec seulement 2 passagers à bord, Marius et le capitaine de capitainerie, et 2 hommes d'équipage, bien sûr, pour manœuvrer la navette. Voyez, capitaine, normalement, quand on arrive au bout du port, eh bien, on voit le château d'If qui est là, juste dans l'axe, pile en face. Eh bien là, il est plus en face, mais à bâbord. À bâbord. À droite, donc. Non. À bâbord de gauche. Enfin, à bâbord de droite si vous faites demi-tour. Attendez, attendez, Marius, je vous suis plus. Tenez, regardez, on le voit là-bas. Il est déjà du côté de Sormiou, il va vers Cassis. Ça alors? Mais ma parole, il a dû accélérer. Oui, pourtant, il n'y a pas de vent. Mais bon, voyez le travail. Si moi, maintenant, je dois sortir du golfe de Lyon pour aborder le château d'If, non seulement c'est plus rentable, mais en plus, je ne sais pas lire une carte.
Ah,
bon sang, Marius, vous savez quoi? Si ça se trouve, c'est à cause de la tectonique des plaques. Oh, écoutez, capitaine, je ne sais pas si c'est les plaques ou les brûleurs ou toute la gazinière qu'il faut changer. À vrai dire, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est pas mettre 3 jours pour faire un aller-retour. C'est la mort de l'excursion. Bon sang, Marius, vous avez raison, l'affaire est trop grave. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Mais, capitaine, appelez Greenpeace. Pourquoi Greenpeace? Mais parce que j'ai le numéro. Oh, vous avez raison, je vais appeler Greenpeace. Et yes. Allô? Yes. I am the captain of the capitanry of the port of Marseille. Yes. Do you know that if is going east? If what? No, yes. If, you know, if is going east, when does if arrive? Oh, sorry, I don't understand. Fucker, I don't understand. No. Non, what, non, what, pas what, if, bon sang. Oh, écoutez, Marius, votre téléphone capte mal. Ramenez-moi à mon bureau que j'avise. Marius donne l'ordre à l'équipage de faire demi-tour. Seulement, ces 2 matelots, accrochés à leur verre de rosée, ne l'écoutent absolument pas. Trop occupés qu'ils sont à diverger sur le bien fondé des réserves critiques de Max Weber sur le manque de transcendance dans la spiritualité confucéenne. Ça alors, mais ils sont bizarres vos matelots, Marius. C'est quoi leur nom? Ah, leur nom. Alors lui, le grand en blanc, c'est Faria? Non. Ne me dites pas que le petit en noir, c'est l'abbé. Oui, l'abbé, Gérard l'abbé. Pourquoi? Alors, là-dessus,
ouais.
3 propositions.
Pour que Lucas Fournier poursuive et écrive le deuxième chapitre.
Le deuxième chapitre, c'est
ça. Ouais.
Première proposition. Le capitaine de capitainerie va pour réfléchir, mais à ce moment-là, il voit dans le dos de l'abbé et de Faria que le Mucem a appareillé en lâchant une fumée noire et part plein ouest vers Narbonne.
Ah oui,
le Mucem, vous connaissez,
c'est oui, bien sûr.
Un magnifique musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée qui est ouvert depuis pas très longtemps à Marseille,
ah oui.
Tout près du Vieux-Port.
Et
près,
alors, il s'en irait tout seul comme ça?
Absolument, qui a appareillé en lâchant une fumée noire et en partant plein ouest vers Narbonne. Deuxième proposition, le capitaine Lespinasse rentre à son bureau et en faisant le calcul de la trajectoire de l'îlot, il se rend compte que le château d'If fait effectivement route au sud-sud-est-est, pile vers l'île de Monte-Cristo.
Mmh.
Troisième proposition, les autorités portuaires reçoivent une revendication d'un obscur correspondant de la famille d'Auguste Maquet réclamant une rançon pour arrêter la course folle du château d'If.
Bon, Lucas Fournier, vous êtes un homme heureux. On vous offre un premier chapitre magnifique. Qui portait un titre d'ailleurs, Serge?
If.
If. Donc, un premier chapitre magnifique. 3 possibilités de suite qui sont aussi attractives les unes que les autres, non?
Toutes les 3 sont très attractives, donc je choisis déjà un titre pour mon chapitre 2.
Oui.
Alexandrie Alexandra Dumas, c'est le titre.
Oui.
Et j'ai pris la 3e possibilité.
Alors,
souvenez-vous, les autorités portuaires reçoivent une revendication d'un obscur correspondant se réclamant de la famille d'Auguste Maquet, réclamant une rançon pour arrêter la course folle du château d'If.
Voilà.
Donc le capitaine de la capitainerie, Lespinasse, qui n'a jamais lu le comte de Monte Cristo, ignore qu'Auguste Maquet est l'homme qui a écrit dans l'ombre le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas. Mais ce qu'il n'ignore pas, c'est l'état de nos finances publiques. Lui, l'ancien contrôleur fiscal du fisc. Et Lespinasse, ça l'agace, ça le tracasse, ça l'escagasse qu'on se décarcasse pour trouver des 1000 et des 100 pour une soi-disant rançon à propos d'une affaire qui remonte quand même à 1844. Non, la France ne paiera pas. Je vais arraisonner moi-même l'île d'If avec la garlinette. Mais ce n'est pas raisonnable d'arraisonner une île de 3 hectares avec une vedette d'excursion qui fait 10 mètres de long, objecte Marius. Vapeur toute, toute pour un et un pour toutes. Mordius, hurle Lespinasse, bien qu'il n'ait pas lu non plus les 3 mousquetaires. Comme un vol de Gerfaut hors du vieux port natal, de Calanque, de Cassis, Marius, le capitaine, partent ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ah, les braves, la garlinette, voguant sur cette grande bleue qu'ont chanté Paul Valéry, Albert Camus et Tino Rossi aussi.
On est tout de suite très culturel avec Lucas Fournier. Hein.
La garlinette lancée vaillamment à la poursuite du château d'If, qui continue sa course vers l'est en accélérant comme si elle se sentait poursuivie. À bord de la garlinette, la vie s'organise. À bâbord, enfin à gauche, les hommes d'équipage, l'abbé et Faria, s'absorbent dans une relecture symptomale de l'œuvre de Max Weber, animée d'une véritable herméneutique du soupçon. À tribord, à droite de bâbord donc, l'Espinasse recense les maigres vifs disponibles. Un vieux Bounty au chocolat, il n'a pas lu non plus les révoltés du Bounty, et ça tombe bien parce que ce n'est pas un roman d'Alexandre Dumas. Un fond de pastis et les 180 pages de la revue Philosophie et crustacés, spécial Michel Onfray, qui, une fois macérées dans l'eau de mer et longuement mastiquées, peuvent faire 3 repas. La traversée s'annonce dantesque. Et en effet, « Capitaine, capitaine, nous voici à l'endroit décisif. » Décisif ? Mais qu'est-ce que vous me chantez là, Marius ? Je ne vois qu'un if, le nôtre, le château d'If. Décisif parce que nous sommes en panne d'essence, insiste Marius. En panne de sens, au sens propre ou au sens figuré. Épistémologiquement, il n'y a plus de gazoil, et puis c'est tout. Nous avons perdu la partie, l'Espinasse. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Soupire le capitaine de la capitainerie. Marius, mettez un canot à la mer et rattrapez l'île. Le vent se lève, il faut tenter de suivre. Et les voilà, les 4 hommes dans un bateau qui continue à la rame sur le canot de sauvetage de la Garlinette. Ou plutôt à pied, car sur la Vedette, il n'y a qu'un pédalo de sauvetage. Faria et l'abbé pédalent sur les flots dans le sillage onctueux du château d'If qui s'éloigne à l'horizon. Pas facile de suivre une île qui file d'ineux, surtout avec une dépression orageuse de 1003 hectopascales sur le golfe de Gênes se décalant lentement vers le sud-ouest en se comblant avec une mer devenant agitée. Ah, la route de l'île est vilaine. 20 heures après, les hommes fourbus et férus de Dumas ne peuvent que constater l'évidence. Le château d'If n'est plus qu'un point inaccessible voguant à l'horizon. Mais voici que, se dressant hors de l'onde, comme s'il marchait sur les flots, un homme apparaît, échevelé, livide au milieu de la tempête. « On dirait Ulysse, » murmure l'Espinasse, qui n'a pas lu non plus l'Odyssée. « C'est Grouchy, » suggère Faria. « Non, Blücher, » rectifie l'abbé. L'homme juché sur une étrange plateforme métallique s'approche. « Quénavo, messieurs ! N'auriez-vous pas croisé, par hasard, une île mystérieuse ? Je la cherche !»« Nous aussi !» s'exclame l'Espinasse. « Ah ça alors, monsieur d'Artagnan, j'étais à 20 000 lieues de me douter que vous étiez à la recherche des ferrets de la reine cachés dans le château d'If. » Le capitaine Nemo, puisque c'était lui, voyant à qui il avait affaire, décide de ne pas rouvrir le débat littéraire. C'est un marin, un vrai. Et la formidable solidarité des gens de mer n'est pas un vain mot. Alors, aimablement, il propose de tracter le pédalo en panne de muscles avec son sous-marin. Et les voilà partis de conserve, le pédalo et le nautilus, faisant jaillir sur la Méditerranée une gerbe d'écume. Nœud après nœud, mille après mille, le tandem fantastique gagne du terrain. « Terre, terre !» hurle de concert l'abbé Faria. Une côte rocheuse se profile où scintille un phare. Et là-bas, If use d'un ignoble stratagème, un camouflage de pirate. L'île vient de s'arrimer à la terre pour se confondre avec elle. Cette fois-ci, la partie est vraiment perdue, soupire Marius. Mais tout à coup, 3 hypothèses pour la suite.
Et pour Dominique Müller.
Première hypothèse, l'Espinasse refait ses calculs par 30 degrés de latitude est. Il conclut If I am right, we are in front of the famous phare des sanguinaires. And if I am trompette, we are in front of the phare d'Alexandrie. Deuxième hypothèse, le Nautilus emporté dans sa poursuite infernale éprône malencontreusement le paquebot, le Kierkegaard, qui propose une croisière culturelle. Quintessence et Aioli, avec à son bord André Comte-Sponville, Alain Finkielkraut et Raphaël Enthoven. Troisième hypothèse, les autorités portuaires reçoivent une revendication du même correspondant se réclamant de la famille d'Auguste Maquet, réclamant cette fois, pour arrêter la course folle du château d'If, une rançon moitié double.
À moitié double.
Oui, moitié double.
Ça veut dire quoi, moitié double ?
Moitié double, égale.
Ah, c'est très mystérieux. On est, Dominique, dans une belle histoire d'hommes, de fraternité,
oui.
Des tyrans,
bourru,
des personnages.
C'est bourru,
oui.
C'est lyrique. Bourru et lyrique.
Ouais, c'est, même, oui. Ça manque un peu de femme, je dirais. C'est le seul bémol. Hein.
Bah, vous savez, le milieu de la mer, c'est comme c'est. Hein. Bah,
il y a très peu de navigatrices.
Oui, oui.
Ouais. Ouais. Alors, vous prenez le relais.
Oui, le relais est la troisième solution.
Oui.
Mon chapitre s'intitule « If, off, off
ouais. ».
Alors, 3. Les autorités portuaires reçoivent une revendication du même correspondant se réclamant de la famille d'Auguste Maquet, réclamant cette fois pour arrêter la course folle du château d'If une rançon moitié double.
Et vous, vous avez compris ce que ça voulait dire,
non,
moitié
mais
enfin, double?
Non, bien
non,
sûr,
mais
que
c'est
non.
Pas grave.
De toute façon, je ne compte pas la payer, donc je m'en fiche, le montant de la rançon, ça m'est égal.
D'accord.
Mais les autorités sont en mer, à pédalo, et la réclamation est reçue par Julie, la fille du capitaine, connue au Mucem comme artiste d'avant-garde, et sur la Canebière comme la Julie de l'Espinasse.
Oui, Lucas.
Que tout le monde connaît, Julie de l'Espinasse, puisque bien avant Dominique Muller et bien avant Alexandre Dumas, elle recevait dans son salon cette grande amoureuse, l'élite scientifique et intellectuelle du XVIIIe siècle, oui. Parisien.
Oui, oui. C'est un siècle après les précieuses ridicules, mais il y avait un peu de ça, quoi, quand même.
Mm-hmm. Et donc, la Julie de l'Espinasse, sur le port.
Ouais. Pour le salon Infinite If, elle a médité, ramé et enfin créé de ses propres mains et en carton The Concept Subversif qui est bourrif. La réplique d'If vogue à présent du frioul au riou, du planier au pendu, plus libre que l'If séculaire, emballé façon cristaux en pièces montées. Ah, les cendres de Dumas, les poncifs de ce plumitif sont le leitmotiv de Papa l'Espinasse, pour qui concept et château en Espagne c'est kiff-kiff. Jules Verne a frappé juste, la vieillesse est un naufrage, qui d'ailleurs menace à voir au loin l'équipage de bras cassés pédaler dans la choucroute à la poursuite de son château de cartes, au propre et au figuré. Alors ma prime de pénibilité jappe soudain Auguste Maquet, dernier avatar d'une lignée de sous-fifres, piscopie ou emballe château de père en fils. Ça fait deux fois que je revendique la maigre rançon de ton triomphe et rien, ça suffit, je me rebiffe. Maquet, tais-toi Maquet, tu cries trop fort. Je n'entends pas papa, ça sonne loin du port. Son portable est en berne en prime. Là-bas, sur les flots houleux, aucun tilouli-tilouli ne peut lutter contre le tumulte des vents déchaînés, l'écho de l'orage qui sur les vagues s'achemine, le fracas du tonnerre de Marseille qui, selon Hecto-Pascal, a ses saisons que le Brestois ne connaît point. Pressentant un déluge, Nemo décide d'immerger le Nautilus en dépit des récifs sous-marins qui risquent de l'éprôner genre Titanic à l'envers. Par en dessous, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, un petit peu, oui. Ah oui, c'est...
Tout à sa manœuvre, il oublie tandem et passagers qui s'enfoncent de conserve au bout de leurs cordes. « Un pédalo à l'eau, un pédalo à l'eau » crachote-t-il en expulsant coquillages et crustacés sur la mer abandonnée. Nemo, un loup de mer solidaire, son imposture fera la une de la Provence. « Kamasutra Mahabharata », affirme celui-ci qui, démasqué, retrouve la langue maternelle de son père, le Raja de Bundelkund. Par chance, Marius promène souvent des Bundelkundiens sur la garlinette. Mot à mot, il traduit que Nemo déteste avoir les tifs frisés par la pluie, qu'il hait les calamars, même bébés, comme celui que l'Espinasse a recraché, qu'il a trop vu d'îles touristiques avec phare et château Rikiki, qu'il n'a qu'à y aller à la nage, qu'il remontera les récupérer après l'orage, qu'il aime les nœuds en vitesse, mais pas en sac. Enfin, qu'il n'y a pas lieu de papoter, alors bon vent les gars, au propre et au figuré. Ce que les naufragés retraduisent par « coquin de sort » en regardant s'engloutir le Nautilus. « Nageons, à moins de construire le radeau du pédalo, vous voyez le tableau. Suivez-moi à l'abordage, c'est pas le rocher de Sisyphe non plus, commande l'Espinasse qui n'est pas capitaine pour rien. » Sitôt dit que fait, en voyant les choses du bon côté, celui du phare, If n'est qu'un jet de pierre, là où déclame un type échevelé, livide, au milieu de la trempette. Levez-vous vite, orage désiré, sous ce ciel bas et lourd qui pèse comme une baleine, savez-vous, mes braves, où se cachent grand et petit B ? Votre question me laisse bouche bée, répond l'Espinasse en joyeux dri qui sait détendre une atmosphère orageuse. Vous aussi, vous prenez le château d'If ? René, yes, but not if. My name is Brillant, château Brillant. Brillant, vous êtes sûr ? Comme ce phare ou au figuré ? Stricto sensu. Ah non, par ici, il y a des méduses, mais il n'y a pas de sensu, réplique l'abbé Faria. Marius, qui a lu Debellum Gallicum, oublié par un vieux romain dans la garlinette, soupçonne ce zigoto d'être César, son héros revenu prendre le château d'If après le siège de Marseille. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est une coutume romaine. Et s'il veut le château, on est mal. L'Espinasse va rétorquer que Mordius, mais... Que se passe-t-il ? Le sol tremble sous ses pieds. La partie est-elle vraiment perdue ? trois possibilités.
Ah, vous nous laissez comme ça en plein suspense, mais c'est intolérable, ça.
Tu trouves aussi.
Ah oui, alors, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Trois possibilités, la première. Mais non, le sol tremble sous ses pieds au figuré, à cause de son téléphone qui vibre. Julie, enfin, lui passe un savon. De Marseille à Paris, le ferry pour la Corse, il les ramassera au passage. Elle lui promet au retour une explication sanguinaire.
C'est plein de gags, hein, savon de Marseille.
Deuxième
L'explication sanguinaire, évidemment.
Deuxièmement, c'était fatal. Les 12 fournées ratées de touristes casquettés, parce qu'ils sont toujours en train d'attendre, ont improvisé une manif sur le Kierkegaard, retenue à quai, sans croisière ni débat soporatif. Mireille Dumas a
soporatif.
C'est bien soporatif.
C'est jolie remarque.
C'est bien. Ça existe. Enfin, ça existe à partir d'aujourd'hui.
Oui,
en tout
c'est très joli. Ça va très bien.
Mireille Dumas a proposé sa médiation à Comte-Sponville, Finkielkraut et Antoven, fou de rage. La voici arrivée en hélicoptère, prête à ramener à terre et à la raison ceux que la Canebière surnomme déjà les forcenés de la Fortif. Troisième possibilité, le château d'If est lassé des camouflages, emballages, cartonnages à la cristaux. À presque 500 ans, à quoi sert de lifter If? Il étire ses deux ailes, ou tangue ses gars qui lui collent aux fesses, au figuré bien sûr, pressé de voler de ses propres ailes, au figuré aussi. Oui, il va fuir, là-bas fuir. Et s'il faisait du Nautilus stop jusqu'en Angleterre, où on sait ce qu'If veut dire?
C'est magnifique. Elle a joué avec If. Hein. Il y a des If partout, ce qui n'était pas si facile. Oui.
Un discours soporatif, c'est à la fois un discours trop long et vite fait.
Endormant,
mais trop rapide. Ah oui, je comprends mieux.
Et vous avez noté quand même combien les deux suiveurs, si je puis dire, Lucas Fournier et Dominique Muller, ont repris votre running gag du « au propre figuré », qui a une extrême importance dans les trois chapitres.
Toujours bon, le running gag.
Alors, ce roman vous revient, Serge Joncourt, c'est vous qui l'avez lancé. Eh bien, vous le retrouvez.
Ben voilà.
Il fallait réfléchir avant.
Comment pas n'importe quoi dans la mer.
Vous poursuivriez, si vous deviez le faire, comme ça, un petit épilogue, et puis naturellement la chanson du roman.
Oh, je dirais, si vous voulez, que l'If continue, rencontre un baleinier commandé par un certain capitaine Ahab.
Oui.
L'obsession, évidemment, est de chasser le cachalot. Au point d'ailleurs de prendre le pédalo pour courir le cachalot, parce qu'il confond en fait le cachalot et l'île. Enfin bon, tout ça, c'est un peu en gros. Et le drame, c'est quand vous l'emplantez son harpon, Ahab, enfin son harponneur, ne percerait non pas l'île, mais les deux pétaliers qui tentent de regonfler le ballon. Enfin, je ne sais pas si vous me...
Je suis un peu.
Non, mais c'est normal.
Je suis dans une barque et je rame un peu, ou c'est vous qui ramez, je ne sais pas.
C'est un peu brouillon, si vous voulez. Mais enfin,
ouais.
Je crois que...
C'est-à-dire que l'idée, c'est que If s'en va, qu'on le reverra jamais.
Oui, voilà, c'est ça. Oui,
hein,
oui,
c'est un peu ça, l'idée.
Oui, il s'en va, il s'envole même.
Vous auriez une idée de suite, vous, Lucas?
Ah oui, Dominique nous propose de partir en Angleterre avec
en Nautilus Stop.
Le château d'If.
Oui.
À l'intérieur, il y a le comte de Monte Cristo. Il va rencontrer Milady de Winter là-bas et ils vont s'aimer et avoir beaucoup d'enfants. Et ça va faire
un très beau roman
d'Alexandre Dumas.
Très beau. Et on a envie d'entendre la chanson du roman, Serge.
Oui.
Entendons-nous bien, la chanson du roman interactif, c'est pas de reprendre tous les éléments du roman, c'est un peu d'extrapoler,
évidemment,
de partir en voyage avec l'histoire, donc de l'entraîner un petit peu où on a envie de l'entraîner. Et déjà, de choisir un air connu, très connu, qui convienne bien à votre tessiture.
Ma tessiture est assez tout terrain, non, c'est pas le problème. Non,
c'est pas
le problème. Oui, non, simplement comme le propos, le projet, c'était ma Marseille.
C'était Marseille,
oui, si je me souviens bien.
Oui, c'était la contrainte.
J'ai donc pensé à une chanson qui vient tout naturellement, c'est au nord
de Pierre Bachelet.
De Pierre Bachelet, oui.
Au nord, il y avait les cons.
Non, oui, enfin non, là, ça va être autre chose. Mais...
C'est les quartiers nord, de toute façon.
Il
y a toujours un nord quelque part. Une île avec un château, une île entre Monte Cristo. Une île à défier Nemo, une île s'en allait sur l'eau. Un beau matin d'hiver, en plein cœur de juillet, D'un coup, l'if s'est mis à bouger. Et on la vit là-bas, partir loin sur les flots, à la rencontre de 1000 héros. Tout le monde reste à bouche bée, comme face à Saint-Malo, face à l'if qui va des rétros. Monter en haut du mât, à viser cela de haut, quand vint l'armada de pédalos. Une île avec un château, une île entre Monte et Cristo, une île à défier Nemo, une île s'en allait sur l'eau. Yves s'en alla tôt large.
S'en alla tôt large, oui. Non, mais il fallait un pied, oui.
Ça m'aurait arrangé. Yves s'en alla au large, coursé par les matelots, pédalant tous bravement sur l'eau. Mais comme dans tout marin, il y a un sou qui sommeille. Mais vit-il sortir les bouteilles d'oxygène ou de Cointreau? Le résultat est le même. Les marins soudain se soulèvent. Hissé par le sous-marin, en dessous de ses marins sous, était-ce Nemo ou le cachalot qui se cachait sous l'eau? Une île avec un château, une île entre Monte Cristo, une île à défier Nemo, une île s'en allait sur l'eau. Bientôt le golfe de Gênes, là-bas, était en vue, quand Ulysse surgit à moitié nu, l'avait empris de kilo, qu'on le reconnaissait à peine, au point qu'on le prit pour une
baleine.
Voilà. Un cap n'y croyant plus, cette fois c'était trop beau, il tenait enfin son cachalot. Seulement quand il tira dessus, le maudit dit qu'au lieu de fondre, s'éleva doucement au-dessus des ondes. Nanana. Une île avec un château, une île entre Monts et Cristo, une île à défier Nemo, une île s'en allait sur l'eau. Je vous sens déçu, vous attendiez plus. Hein.
Ah non, si. non, moi je pense qu'avec 2-3 heures de répétition, vous serez très bien à l'Opéra de Marseille. Ah oui, très très bien. Ah ouais, non, parce qu'il y a du potentiel, vous ne trouvez pas, Dominique?
C'est émouvant.
Exactement.
C'est le mot. Je crois résumer
le mot. Hein, d'ailleurs, Lucas.
Même. Ah bah le silence qui suit Serge est éloquent, là.
C'est chaud, là.
C'est toujours du Serge.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Véronique Villa et Valérie Lavalard, à télécharger pendant un an sur franceculture.fr, à réécouter 1000 jours à la page des papous où vous pouvez poster vos remarques et questions, rubrique commentaires. Et c'est là qu'il faut aussi écrire vos histoires racontées avec les 10 mots de la francophonie 2016. On se retrouve dimanche à 12h50 en direct et en public au Salon du Livre de la Porte de Versailles à Paris. 10 papous pour le vin au salon. Et vous êtes tous les bienvenus. Retrouvez les renseignements sur les pages des papous du jour et sur Facebook comme il se doit. Au revoir, passez un bel après-midi en bonne compagnie à l'écoute de France Culture.
Quoi, quoi ? Ah !